prennent leur temps pour nous conduire dans l'adoration. On arrive dans une période de froid, hein? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mon auto a pris un petit peu plus de temps à partir ce matin. On est dans une période où c'est nécessaire de s'habiller. La semaine dernière, on parlait de feu, tu sais, d'éprouver la foi comme l'or qui est éprouvé par le feu. On est éprouvé par le froid. Je ne sais pas à quelle épreuve vous vivez ça. Mais dans cette même analogie, quand on est prêt à affronter le froid, on est à l'intérieur, mais pour se préparer à rencontrer les grands froids, qu'ils fassent moins 20, moins 25 ou peu importe, ben il faut à l'intérieur se préparer pour aller à l'extérieur. Vous êtes d'accord, hein? Si vous avez des enfants, vous allez dire, ben avant de sortir, mets ta cramonne, puis zip jusqu'en haut, mets tes mitaines, et puis assure-toi de bien sortir dehors. Et parce qu'on veut les préparer à ce qu'ils puissent affronter le grand froid. Puis, si vous êtes comme moi, des fois, vous préparez, puis là, vous êtes encore à l'intérieur, puis là, tout à coup, vous commencez à avoir chaud, puis là, vous êtes un peu impatient parce que là, vous êtes encore en dedans, vous êtes habillé, puis vous préparez à sortir. Ben, c'est un effort minimum pour se préparer à quelque chose de beaucoup plus confrontant, qui est le grand froid. Et si vous avez même des jeunes enfants, comme des bébés, ben là, c'est le chaos, hein, quand vous essayez d'habiller un bébé, puis que là, il a chaud, il pleure, il fait tous les temps, parce que, en tant que bon parent, on veut préparer le bébé à sortir dehors. Les épreuves, c'est un peu semblable. C'est comme si Dieu veut nous préparer, des fois, à travers certaines afflictions, certaines épreuves, à être capable aussi d'en affronter d'autres, puis être capable de faire des pas de croissance dans notre marche avec lui. Et des fois, peut-être qu'on réagit comme des petits-enfants où quand on commence à avoir un peu trop chaud, on commence à se débattre puis à montrer qu'on est inconfortable. Mais on doit se rappeler ce qu'on se disait dans le texte de la semaine dernière, que Dieu est au contrôle, que Dieu, il le sait ce qui se passe, puis que Dieu est en train de nous dire, « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que tu comprends pas tout. » Hein, mais peut-être que quand j'habille mon bébé de quelques mois, il comprend pas, lui, dehors, qu'il fait moins 20. Puis c'est quoi moins 20 pour lui? Il ne sait pas. Mais on sait très bien, par exemple, que si on ne l'habille pas, il va souffrir beaucoup plus que si on ne l'a pas fait souffrir un petit peu en dedans pour qu'il ait trop chaud. Mais si on ne comprend pas tout, Dieu, il comprend tout. Puis on a besoin de se rappeler que Dieu nous dit, « Fais-moi confiance, parce que je comprends. » On a vu que Dieu nous dit, « Fais-moi confiance, je suis au contrôle. » Et je suis au-dessus de toutes circonstances. On se dit que des fois, dans certaines circonstances où on vit des épreuves, on a l'impression que le tapis nous a glissé en dessous des pieds, qu'on a perdu le contrôle. Dieu est au-dessus de toutes circonstances. Le doute, des fois, veut le malin, comme on disait, veut des fois venir attaquer notre foi puis nous dire, « Est-ce que tu es sûr que Dieu est au contrôle de ta vie? Regarde les circonstances qui sont en train de se produire. Oui, Dieu est au contrôle. » Puis oui, Dieu est au-dessus de toutes circonstances, puis Dieu est encore souverain sur nos vies, est encore souverain sur toutes circonstances, même si on a l'impression que le tapis nous a glissé en dessous des pieds. Dieu nous dit, fais-moi confiance, parce que je t'aime. J'ai beaucoup aimé le chant qu'on a chanté puis qu'on connaît depuis plusieurs années. Si vous prenez le temps de regarder ces paroles, il me touche profondément, ça révèle de belles et de grandes vérités de la parole. Si on prenait le temps d'écrire sur l'amour de Dieu puis qu'on essaye d'épuiser le sujet, on va faire tarir les eaux de la terre. On remplirait la place entière de rouleaux qui va exprimer de son amour. Dieu, il t'aime. Dieu, il m'aime. Puis il me dit, fais-moi confiance. Parce que même avant que tu vives ces circonstances-là, je t'aimais. Des fois, on se trouve après des circonstances, des difficultés, puis oui, on peut témoigner que Dieu nous aime, c'est vrai. Mais rappelez-vous pendant les épreuves que Dieu t'aime, puis qu'il veut que tu lui fasses confiance, et que Dieu est au contrôle, puis il a prévu d'épurer notre foi, de nous faire grandir, parce que notre foi est de grande valeur devant lui. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre, là où on est rendu. Je vais simplement relire les versets 8 et 9. avant qu'on continue dans notre texte, des versets 10 à 12. 1 Pierre 1, versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Dieu veut que tu aies la joie de ton salut. Dieu veut que tu aies cette joie associée au salut de ton âme. J'aimerais qu'on prie ensemble, que Dieu nous conduise dans sa parole pour qu'après ça, on puisse regarder cette vérité-là. Que Dieu veut qu'on vive la joie de notre salut et il va nous donner des arguments pour qu'on puisse le voir. Prions ensemble avant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu es un grand Dieu et puis Dieu, tu nous dis, fais-moi confiance. Et pourtant, tu es celui qui est digne de toute confiance. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es celui sur qui on peut s'appuyer. Et Seigneur, ce matin, on veut ouvrir ta parole pour te connaître. Tu veux qu'on vive la joie de notre salut. Tu as sauvé nos âmes de la perdition éternelle. Viens remplir nos cœurs, Dieu. Viens nous remplir de cette compréhension de ce qu'on peut vivre présentement, du salut de nos âmes, pour qu'on puisse continuer, Dieu, de t'honorer en toutes circonstances, de te glorifier en toutes circonstances, que de vivre cette joie indescriptible en toutes circonstances. Dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. C'était une fois un homme qui était un peu tanné de sa maison. Puis il commençait à avoir des petites choses qui le tannaient. Puis tu sais, il y avait une entrée simple pour sa voiture. Et puis, il n'aimait pas nécessairement la couleur extérieure de sa maison. Et puis, après une rencontre familiale avec sa femme, il a décidé de mettre sa maison à vendre. Alors, il a confié sa maison à un agent d'immeuble. Et lui, de son côté, a commencé à faire des recherches pour trouver une maison à son goût. Finalement, quelque chose qui va lui convenir. Fait qu'en commençant à chercher sur Internet les petites annonces, il tombe sur une petite annonce qui a l'air intéressante. 4 chambres, spacieuses, salle de bain refaite, cuisine en plancher de céramique, etc. Puis, plus il lisait la petite annonce, il disait, c'est emballant, c'est intéressant, tu sais, je vais regarder où l'adresse, puis, c'est dans ma rue, c'est tout proche, en plus, je vais peut-être pouvoir aller la voir, puis, tiens, mais c'est chez nous! Il réalisait qu'il est tombé sur sa maison. Je sais pas comment est-ce qu'il allait se vendre, s'il voulait se l'acheter. Des fois, on détient des choses comme ça à l'image de cet homme-là, puis on réalise pas ce qu'on a. On a besoin des fois de s'asseoir puis de dire, c'est quoi que j'ai là? C'est quoi le salut de nos âmes? Le quotidien des fois peut nous amener à un point où on oublie ou on perd un petit peu peut-être la juste valeur du salut de nos âmes. Pourquoi Dieu nous a sauvés quand il a sauvé notre âme? La perdition éternelle, de l'œuvre du malin dans nos vies, de l'esclavage du péché dans nos vies, nous a sauvés d'une séparation qu'on était avec lui pour être en relation avec lui. Une joie indescriptible parce qu'on a le salut de notre âme. Jésus, il disait à ses disciples, réjouissez-vous pas d'avoir chassé des démons, d'avoir fait toutes sortes de choses, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom est dans le livre de vie. Le salut de nos âmes, on a besoin des fois de regarder est où cette adresse-là, puis de réaliser c'est ce qu'on a. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, c'est-à-dire que tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés, tu as cru que tu étais un pécheur, que tu étais séparé de lui, puis que dans son amour, Dieu t'a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir pour toi. Si tu as cru ça, tu as placé ta confiance en Dieu, tu t'es repenti de tes péchés, tu es un enfant de Dieu. Quiconque confessera ces choses-là sera sauvé, que Romains nous dit. Quiconque peut être sauvé. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu ce matin, Dieu veut que tu aies la joie de ton salut. Dieu veut que tu te réjouisses de ton salut. Avez-vous déjà réfléchi sur ce qui fait, sur ce qui vous remplit de joie? Peut-être certains répondraient, moi, c'est ma famille. Ben, c'est mon travail. C'est mes hobbies. Peut-être que de façon moins transparente, on pourrait dire c'est nos biens, les choses qu'on possède. Qu'est-ce qui vous communique de la joie? Tout enfant de Dieu devrait pouvoir dire le salut de mon âme, ma relation avec Jésus-Christ. Ça, c'est la joie qui est au-dessus de toute joie. Une joie indescriptible, une joie qui remplit mon cœur continuellement. Mais trop souvent, on oublie ce qu'est le salut de nos âmes, puis on oublie sa juste valeur. Pierre, il commence son épître, on a lu tantôt les versets 8 et 9. Il commence son épître en s'adressant à des gens qui viennent de se convertir et qui ont, peut-être dans leur passé, même étant incroyants, ont eu des épreuves. Puis là, ils viennent de se convertir, puis il y a des épreuves qui continuent. Puis même, il y en a qui se sont ajoutés parce que leur foi fait en sorte qu'ils sont méprisés ou calomniés ou quelle que soit l'affliction associée à leur foi. Maintenant, quel est notre comportement dans cette affliction-là? Quel est notre comportement dans l'épreuve? Pierre va nous dire, il y a cette joie. Le salut n'immunise pas des épreuves, mais garantit une joie malgré toutes circonstances. Et pour ça, il faut s'arrêter pour prendre le temps de le réaliser. On va lire les versets 10 à 11. Et ce qu'on va voir dans les versets 10 à 11, c'est que Dieu va vouloir mettre du relief. On va dire ça comme ça. On va voir quatre agents divins qui vont nous apporter une perspective du salut que l'on possède, du salut de nos âmes. Ces quatre agents divins-là, on pourrait dire, c'est comme si et ils apportent une perspective de ce que nous, on détient comme salut de nos âmes. Et ces perspectives-là vont nous amener à découvrir et apprécier davantage ce que l'on a. Regardez, on va commencer avec le verset 10. On va lire 10 à 12. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. » Et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désire plonger leur regard. Dieu veut-elle la joie de ton salut? Dieu veut que tu vives cette joie du salut de ton âme. Et le premier agent divin qu'on voit, des personnes que Dieu a utilisées, c'est les prophètes. On dit que les gens qui ont la fibrose kystique, j'ai un ami qui a la fibrose kystique, il a dû être greffé de poumon. Et l'épreuve, si je peux dire, associée à cette maladie-là est difficile parce qu'elle affecte directement la respiration. Et on dit que les gens qui ont cette maladie-là, c'est comme s'ils respirent à travers une paille à longueur de journée. Je vais l'essayer pour vous, mais pas toute la journée, là. Vous pourriez essayer de courir ou peut-être même marcher rapidement en respirant par une paille. Vous ferez l'expérience. Je l'ai essayé un petit peu déjà pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on réalise rapidement qu'il y a quelque chose qu'on apprécie quand on n'a pas cette maladie-là, c'est de respirer librement. Hein? C'est quelque chose de banal de pouvoir respirer librement. Mais pourtant, c'est précieux à la vie. Puis c'est une qualité de vie bien appréciable. Le salut de nos âmes est une qualité de ce que Dieu nous donne, comme semblable à la respiration, où ce qu'on a pleinement, où on ne respire pas juste un petit peu et difficilement à travers une paille. Pour les prophètes, il y avait une portion de révélation qu'ils avaient en ce qui concerne la grâce qui nous était réservée. Regardez le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pierre est en train de dire, ces prophètes-là de l'Ancien Testament, ils se sont fait communiquer des choses, se sont fait dire des choses par l'Esprit qui était en eux, verset 11. Ils voulaient sonder, par exemple, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ces prophètes-là étudiaient le salut que nous, on a présentement. De ce que nous, on a présentement. Eux, là, dans le passé, il y avait ces révélations-là qui étaient fragmentées, qu'on pourrait dire, que Dieu leur communiquait des visions et ils ne comprenaient pas tout ce qui allait se passer. Et ils faisaient des recherches, ils faisaient des investigations, puis c'est quoi ce salut-là? Il semble, les autres vont détenir un déploiement de la grâce où ils vont respirer à pleine bouche. C'est comme si ces prophètes, à ce moment-là, oui, ils pouvaient goûter la grâce, évidemment, parce que Dieu était gracieux à cette époque aussi. Dieu n'a pas changé. La grâce de Dieu a demeuré. La révélation a le transformé, par exemple, elle a été progressive. Les prophètes et les gens qui vivaient sous l'Ancienne Alliance pouvaient eux aussi être sauvés par la foi, par le moyen de la grâce, par la grâce, par le moyen de la foi. Ils étaient sauvés comme Abraham qui a cru en Dieu, cela lui a été imputé à justice. Alors tous ceux qui étaient sous l'Ancienne Alliance pouvaient être sauvés. Et ces prophètes pouvaient être sauvés, mais il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas goûter pleinement. Tournez avec moi dans Romains 9. Dieu, par nature, est plein de grâce. Et les prophètes ont pu voir ce qui s'en venait pour nous, mais sans nécessairement pouvoir l'avoir à leur époque, à ce moment-là. Dans Romains 9, Paul va résumer Osée et Ésaïe, mais regardez à partir du verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe aussi a prophétisé sur le peuple. Allez au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de quoi? De la foi. On pouvait obtenir cette justice par la foi. Ça, c'est la grâce que Dieu voulait communiquer à l'humanité. Tandis qu'Israël cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon ce qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. La grâce de Dieu annonçait, même à travers les prophéties, à travers ses prophètes, annonçait que Dieu allait déployer cette grâce qui allait s'en venir et qui allait être donnée aux hommes. Je vais juste vous citer Jean 1, 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Il pouvait sonder, il pouvait regarder, rechercher, en ce qui concerne notre salut. La perspective des prophètes de l'Ancien Testament qui regardaient notre salut, c'est ce goût d'en savoir plus, ce goût d'en connaître plus, ce goût de l'expérimenter même aussi. Regardez ce que l'Esprit leur a dit. Revenez dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est comme si ces prophètes voyaient au loin les cités d'or briller, mais sans pouvoir y aller, sans pouvoir en profiter. Puis ils pouvaient juste le contempler de loin, mais sans en bénéficier. Est-ce que vous avez la joie de ce salut tant recherché par ceux qui ont cherché dans l'Ancien Testament, par exemple les prophètes? Est-ce que vous avez la joie de ce salut que vous possédez? Comme l'exemple que je donnais tantôt de cette pleine respiration que l'on peut avoir, de ce plein salut de nos âmes qu'on a présentement. Hébreux parle de ces gens qui ont été des héros de la foi et qui n'ont pas obtenu de leur vivant les promesses qui leur étaient faites pour que nous, on puisse en bénéficier. Dans le plan absolu de Dieu, tous les enfants de Dieu bénéficieront évidemment de ce salut des âmes et puis de ce plein déploiement. Mais dans leur cas, Dieu nous attendait pour nous ouvrir la porte. Maintenant, quand on souffre, quand il y a des circonstances difficiles, il peut y arriver, comme je disais tantôt, du doute. Il peut y arriver des circonstances à un moment donné où on pourrait se poser la question, et je vais les dire les questions, parce que peut-être vous voulez poser. Si le christianisme n'était pas vrai, et si je crois dans un mythe ou quelque chose de purement psychologique, que faire si je souffre pour rien? Le salut que vous détenez, ce que Pierre est en train de répondre, c'est qu'il est enraciné depuis des années dans des prophéties des centaines d'années avant Jésus-Christ. Tournez juste quelques pages avec moi un petit peu plus loin dans 2 Pierre 1:19. Ce en quoi vous avez placé votre foi, ça date pas d'hier. Ça date pas juste d'une psychologie qui a été donnée de dire, hey, on va créer une nouvelle religion. C'est le plan de Dieu depuis toute éternité, ce en quoi vous avez placé votre foi. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation que tu rentres avec Dieu. C'est le salut de ton âme. Et le salut de ton âme, mais Dieu l'avait planifié dans son plan, et les prophètes, il y a plusieurs milliers d'années, annonçaient ce qu'on est en train de goûter aujourd'hui. Peut-être tu vis des circonstances difficiles, mais rappelle-toi du salut de ton âme. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait, de cette joie qu'il veut que tu vives et que de ce plan qui date pas d'hier, mais depuis des milliers d'années à partir des prophètes qui l'annonçaient. Et puis 2 Pierre 1:19 dit, il leur promet... j'ai pas noté la bonne référence. Donne-moi un instant. OK, excusez-moi, j'ai pas noté la bonne référence. J'aurais dû le... 2 Pierre 1:19? OK. Ils promettent la liberté. J'aurais dû la citer parce que j'ai perdu le fil. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Parce que je suis dans 2:19. OK, 1:19. Ah, OK, une chance que vous suivez. Moi, je suis pas. Si vous me voyez dormir, là, réveillez-moi. OK, 2 Pierre 1:19, on va l'avoir. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, et voilà, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On tend d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est notre foi, ces prophètes, cet agent divin, je peux dire ça comme ça, met du relief au salut de notre âme. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu de loin, ils l'ont apprécié, ils auraient aimé le goûter. Puis c'est nous qui le goûtons présentement. C'est nous qui le vivons présentement. Je parle pas qu'ils pouvaient pas avoir le salut de leurs âmes, mais la façon que l'on vit présentement, actuellement, notre relation avec Dieu, c'est un privilège immense que de pouvoir avoir cette relation-là étroite avec Dieu, étant sauvé et marcher avec lui. Maintenant, Dieu veut-il la joie de ton salut? Puis ce deuxième agent divin-là, c'est Dieu lui-même par son Esprit Saint. Regardez, je vais relire le verset 11 et 12, et retenez particulièrement l'œuvre de l'Esprit. Il voulait sonder, en ce qui concerne les prophètes, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes n'ont pas inventé quelque chose de leur cru en disant, hey, on pourrait écrire quelque chose là-dessus puis inventer une affaire comme ça. Ce que Pierre est en train de nous dire, c'est que ça, c'est la révélation de l'Esprit. Ça, c'est ce que Dieu leur a communiqué à votre égard. C'est la révélation de Dieu. Le verset 11 montre clairement que c'est l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait ces choses-là. L'inspiration de ces prophètes n'était pas faite de par leur propre volonté, comme Pierre lui-même va dire, 2 Pierre 1:21, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les apôtres qui sont partis après Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle, ils n'ont pas cuisiné eux-mêmes un message de salut. C'est le message de Dieu, le message de Jésus-Christ, le message que le Saint-Esprit voulait communiquer aux hommes. Le salut de nos âmes est un message révélé par Dieu à nous. C'est Dieu qui veut nous communiquer, nous révéler le salut de nos âmes. Et cette révélation-là concernait deux choses en ce qui concerne, par exemple, les prophètes, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Si on lisait, par exemple, différentes prophéties, psaume 22 qui parle de Daniel 9, Zacharie 12, Ésaïe 53, où on parle du Messie qui doit venir puis qui va souffrir, les prophètes ont vu en portion ces souffrances qui s'en venaient. Puis ils ont peut-être pas tout compris, tout ce que ça voulait dire, mais il y avait déjà ces prophéties qui étaient données par le Saint-Esprit. Et il y avait aussi la gloire des choses, la gloire dont elles seraient suivies après la souffrance. On parle fort probablement de la résurrection de Jésus-Christ, de son ascension, de son couronnement, de sa domination, de l'anéantissement de Satan par Jésus. La gloire dont elles seraient suivies, ça c'est la révélation de Dieu pour le salut de nos âmes. C'est-à-dire que Dieu a révélé à ses prophètes et qu'il nous révèle encore à nous aujourd'hui son message. La joie de votre salut ne dépend pas d'une histoire, d'une fable, quelque chose de raconté de quelqu'un qui l'a inventé. Dieu avait tellement votre âme, mon âme, à cœur, qu'il nous a révélé ce qu'on avait besoin pour qu'il soit sauvé, pour qu'elle soit sauvée. Et ça, c'est précieux. Le Saint-Esprit a voulu mettre cette attention particulière pour nous communiquer sa vérité. Et ça, c'était un privilège réservé pour nous. C'est un privilège réservé pour nous. Regardez le verset 12. Il leur fut révélé, parce que eux, ils se demandaient, l'Esprit qui était en eux leur révélait des choses en ce qui concerne les souffrances et la gloire à venir. Et là, ils ont commencé à rechercher puis à essayer de comprendre. Hey, Dieu, c'est quoi que tu es en train de nous dire? Nous autres aussi, on le veut. On peut-tu l'avoir là? Et là, verset 12, il leur fut révélé que c'était pas pour eux. C'était pas pour eux, mais pour vous. C'est pour vous que ça avait été réservé. Pierre est en train d'insister qu'ils auraient aimé vivre cette époque dans laquelle on est actuellement de cette nouvelle alliance. Puis c'était pas pour eux, mais c'est pour vous. Et je crois que Dieu est en train d'insister ici par la plume de Pierre pour dire, est-ce qu'on réalise le privilège que l'on a? C'était pas pour eux-mêmes que ça s'était réservé, mais c'est pour vous. C'est pour vous et moi qu'on puisse vivre de ce salut de notre âme, la joie de celui de notre âme. Moïse, les prophètes ont placé le point culminant de l'œuvre salvatrice dans un chapitre futur, qui est pour nous aujourd'hui passé. Est-ce que vous avez déjà fait le compliment à une personne? « Hey, t'as une belle ombre. »« Hein? Hey, ta maison, là, a fait de la belle ombre. » Hein? C'est un compliment qu'on n'entend pas nécessairement beaucoup. Paul, il dit que personne, dans Colossiens 2, je vais juste vous citer, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus simplement l'ombre des choses à venir, qui est évidemment pas négligeable, là, qu'il faut connaître. Mais la réalité, elle est en Christ, c'est-à-dire que l'accomplissement de tout le plan de Dieu s'accomplit à la croix. Dans cette pleine révélation que nous avons besoin de connaître, le Saint-Esprit est venu révéler aux hommes, et ce qu'on a comme révélation pour nous aujourd'hui, c'est complet, final. On peut tout goûter. La réalité est en Christ. Et en plus, l'ombre est une bonne chose, hein? Si vous regardez des tableaux peints à la main, ben, les jeux d'ombre sont importants. Parce qu'ils ajoutent du relief. Ils ajoutent beaucoup de valeur à la toile. Quand on comprend le plan de Dieu dans son ensemble, c'est important de comprendre le plan. Et de pas rejeter une partie, de dire, ben, ce que Dieu a révélé dans le passé, parce que c'était pas complet, on va le laisser de côté, on va regarder simplement maintenant la réalité. Il faut regarder le plan. Et de là, on va apprécier la joie de notre salut, qu'on obtient le salut de nos âmes avec le relief que l'ombre peut donner. Maintenant, le message que Dieu nous a communiqué, que l'Esprit nous a communiqué, il nous a révélé sa volonté, qu'on peut connaître, goûter pleinement, et c'est pour vous que c'est réservé. Ça l'était pas pour eux, mais ça l'est pour nous. Dieu veut que tu goûtes la joie de ton salut. Et un autre agent divin, regardez verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Alors, ils ont participé dans le plan de Dieu, eux étant des prophètes. Le Saint-Esprit est venu révéler des choses. Et maintenant, le troisième agent arrive, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ces gens-là, qui étaient les auditeurs de Pierre, ont entendu à un moment donné, à quelque part, le message de l'Évangile. La révélation complète de ce que Dieu avait fait pour obtenir le salut de nos âmes, bien, le sel, par exemple, l'Évangile, le message de la croix, mais il y a des gens qui ont apporté ce message-là, qui l'ont communiqué. Dans la joie de notre salut, c'est une chose appréciable que de considérer comment est-ce que l'Évangile parcourt la terre de bouche à oreille. Comment est-ce que l'Évangile nous est parvenu? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que ça, c'est l'œuvre que Dieu a voulu qu'un jour tu l'entends, ce message-là. Mais il y a quelque part, on en est quelqu'un qui a quand même ouvert la bouche. Puis dans les premiers qu'ils ont ouvert la bouche, il y en a plusieurs qui ont été martyrs. On pourrait à la limite dire, ben, porteur de mauvaises nouvelles, qu'ils soient battus ou qu'ils vivent des tribulations ou qu'ils soient même tués pour une mauvaise nouvelle, on comprendrait. Mais pas pour une bonne nouvelle. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de martyrs qui sont morts, qui ont porté la bonne nouvelle. À cause de ce message-là, pour nous aujourd'hui, c'est pratiquement presque abstrait de penser que ces choses-là arrivent. Ils sont arrivés, ils arrivent encore. Peut-être qu'on va les vivre, on ne sait pas. Mais pour Pierre, il est en train de dire, ce message-là que l'Esprit est venu révéler, que les prophètes ont participé, il y a eu aussi des gens qui l'ont communiqué. Pour vous, pour que vous puissiez l'entendre. Et on a la perspective maintenant de ces messagers. Pierre lui-même était un messager. Regardez, je vais vous citer Acte 2. Acte 2, 38-39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pierre lui-même a fait ce discours à la Pentecôte où il est en train de dire « Repentez-vous ». Il était un de ces premiers qui, après le départ de Jésus, a communiqué ce message-là. Et à un moment donné, Jésus, avant qu'il reparte, il a marché avec Pierre sur le sable, sur le bord de la mer, quand que Pierre, après qu'il ait renié, là, il ne s'était pas rencontré encore, et du moins avoir cette conversation-là seul à seul. Et là, c'est à ce moment-là que Jésus a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » à trois reprises. Mais par après, à la fin de ce discours-là que Jésus a eu avec Pierre, Jésus lui a annoncé, « Pierre, tu faisais ce que tu voulais avant. Tu allais là où tu voulais. Mais la fin de tes jours ne seront pas comme ça. Tu n'iras plus là où tu veux, c'est un autre qui va t'amener. Tu te saignais toi-même, c'est un autre qui va te saigner. Tu faisais ce que tu voulais, mais tu vas mourir à cause de ta foi. Jésus est en train de lui annoncer comment est-ce que Pierre allait mourir, comment est-ce que Pierre lui-même allait devenir un martyr à cause de ce message de l'Évangile. Pierre est en train de nous dire, ces gens ont participé pour vous communiquer maintenant ce salut, pour que vous puissiez avoir le salut de vos âmes. Même la tradition nous dit que Pierre lui-même serait mort martyr, mais Jésus l'avait annoncé, mais même la tradition nous dit qu'il serait mort la tête en bas. Et Jésus l'avait annoncé. Il y a eu d'autres, par exemple, les 12 des disciples. On pourrait parler de Barnabas, de Silas, de Timothée, de Philippe, de Jacques, de Jude, de Étienne qui a été lapidé parce qu'il a proclamé l'Évangile. Paul lui-même en parle aussi. Paul, il dit, dans 1 Corinthiens 2, 3, 5, « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul a apporté ce message avec, il dit, avec faiblesse, même craintif, tremblant. Mais sa parole, par exemple, sa prédication reposait sur le message de Dieu. Que notre foi repose là-dessus aussi. Qu'en est-il de nous? La joie de notre salut. Parce qu'un jour, Dieu est venu parler à nos vies, à nos cœurs. Nous dire, David, regarde où ce que t'es. T'as besoin de moi. Ou est-ce qu'un jour, Dieu est venu te rencontrer, a utilisé une personne te révéler ce message si précieux. L'œuvre de Dieu, un jour, il a voulu te rencontrer, te parler. Le salut que l'on a est précieux et grand, et il y a beaucoup de joie à en avoir. Qu'en est-il de notre foi? Qu'en est-il de notre joie dans ce merveilleux message? Qu'en est-il même de notre participation à ce message qu'on peut communiquer? Je vais terminer rapidement. Et là, il y a beaucoup de choses même à dire sur celle-là aussi, par le dernier agent. Regardez verset 12, la fin du verset 12. On va lire verset 12 au complet. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » Tantôt, j'insistais pour dire, c'est l'œuvre de Dieu, hein? C'est le Saint-Esprit aussi, qui, quand il habite chez les enfants de Dieu, mais rappelle le message de ce que Jésus est, de ce que Jésus a fait, puis communique aussi. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges, là, ils font quoi, eux autres? Ça se passe comment, leur vie? Hein? Ils passent comment, leur journée? Ça fait combien d'années, eux autres, qu'ils vivent? Ça se passe comment au ciel quand ils entrent dans la présence de Dieu, avez-vous déjà essayé d'imaginer ça? Hein? Un ange qui entre dans la présence immédiate de Dieu pour le célébrer, pour chanter, pour... Ils vivent ça comment, eux autres? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces questions-là. La parole de Dieu nous donne quelques éclaircissements, quelques bribes ici et là. Mais c'est vous ce qui est intéressant? C'est que si nous, on a l'intérêt de se plonger les regards dans leur vie, eux, c'est le contraire. Ils ont le pardon de leurs péchés. Dieu veut les sauver. Dieu est mort. Il s'est incarné puis il est mort pour eux. Eux, là, ils n'en reviennent pas. Les anges désirent plonger leur regard dans notre salut. Les anges, eux autres, là, ce qui les intéresse, c'est ce que Dieu fait parmi nous. Éphésiens 3:10 dit « Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Évangile, de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Parce que Dieu a fait avec nous, dans notre salut de nos âmes, les anges sont en train de découvrir encore la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils n'avaient pas vu venir celle-là. Puis Dieu a accompli quelque chose. Puis eux, là, le désir qui est là, Epitumousine, qui est traduit par désir, c'est plus qu'un caprice ou qu'une curiosité. C'est une passion qui ne peut pas les... un désir profond ou une pulsion ardente, un désir à satisfaire. Ce mot-là indique que l'intérêt angélique par rapport au salut ne tient ni du caprice ni de la simple curiosité, mais d'une passion forte. Eux autres, là, ils veulent voir. Ils veulent comprendre. Ils baissent leur regard pour mieux observer. Ça, c'est ce que les anges font envers le salut de mon âme. Eux, ils semblent apprécier de quoi qu'ils n'en reviennent pas, puis qu'ils veulent regarder, puis continuer de contempler. Puis moi, je la vis comment, cette joie-là de mon salut, que les anges n'en reviennent pas. Les anges qui sont les anges élus, qu'on pourrait dire les anges qui sont encore dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas rebelles à Dieu, n'ont pas besoin de la rédemption parce qu'ils sont déjà dans cette relation-là avec Dieu. Les anges déchus qui sont devenus des démons, mais ces anges-là déchus n'ont pas de moyen de salut, eux, n'ont pas de moyen de rédemption. Puis je suis à peu près convaincu qu'eux aussi regardent ça. Puis ils doivent être jaloux. Nous, on a la rédemption, le salut de notre âme. Si on est des pécheurs, Dieu nous dit, viens à moi parce que j'ai pourvu un moyen. Moi-même, je suis venu sur la terre. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort pour tes péchés. Les anges n'en reviennent pas. Ça, c'est le salut de notre âme. Les anges ont participé certainement dans le plan de Dieu en ce qui concerne le salut. Puis j'imagine qu'ils étaient enchantés d'y participer. Hein? Même dans la naissance de Jésus, les anges qui ont annoncé la naissance, les anges qui ont, par exemple, gardé le tombeau, etc., on les voit un peu partout dans le ministère de Jésus. Mais ils n'ont pas eux-mêmes goûté ça. Je vais terminer par un dernier texte. Tournez avec moi dans Apocalypse 5. Bien que les anges n'expérimenteront jamais la rédemption, ça ne les empêche pas de chanter à Dieu la gloire de son œuvre rédemptrice. Les anges chantent à Dieu la gloire de son œuvre rédemptrice. Apocalypse 5, à partir du verset 9. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Et là, Jean, il dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des vieillards, des êtres vivants et des vieillards. » Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » C'est le chant des anges qui glorifie Dieu, qui chante à Dieu à cause du salut pour nous, pour l'humanité, du salut de nos âmes. Si on relisait le texte de Pierre, on pourrait remarquer une insistance d'un mot qui revient. Vous. C'est pour vous. C'est pour que vous puissiez goûter, pour que vous puissiez participer, pour que vous puissiez avoir la joie du salut de votre âme. On a besoin des fois de s'asseoir, puis de retrouver la juste valeur, et probablement qu'on n'expérimentera jamais la juste valeur du salut de notre âme. Mais du moins qu'on trouve cette joie de notre salut qui va nous amener que, quelle que soit la circonstance qu'on va vivre, le salut de mon âme me crée une joie par-dessus toute autre circonstance qui peut même me créer de la joie ou des tristesses. Et quand on va arriver par la suite, Pierre continuera en disant, « C'est pourquoi ?» Maintenant, connaissant ça, ayant ça en tête, ayant découvert la joie de notre salut, C'est pourquoi maintenant, relevez-vous les manches, puis on verra la suite. Seigneur, on vient devant toi pour t'adorer. Ta sagesse infiniment variée, Dieu nous montre comment est-ce que tu es venu nous sauver. Tu nous dis qu'on a une joie indescriptible du salut de notre âme. Tu nous as montré comment est-ce que les prophètes auraient aimé y goûter et y participer, mais que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Tu nous as montré comment est-ce que toi-même, par ton esprit, tu as révélé ce message si important pour qu'on puisse l'entendre. Comment est-ce que toi-même t'es venu nous révéler ces choses-là? Tu nous as montré aussi qu'il y a des gens que tu as envoyés par ton esprit pour communiquer ce message. Même s'ils devaient en mourir, ce message, Dieu, continue de se proclamer. Tu nous as montré aussi que même les anges